Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors du lundi au vendredi, il est dans ce studio à mes côtés, c'est le grand, le brillant, le docteur Jimmy Mohamed.
C'est génial. Vu,
au début de l'émission, je suis toujours sympa avec vous. Bonjour
sympa,
Jimmy.
Sincère, juste, mais ça me va très bien. Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré au comment vivre avec une maladie auto-immune. Un sujet large, hein, puisque plus de 6 millions de Français sont touchés par un lupus, une maladie cœliaque, une polyarthrite rhumatoïde. Bon, on ne peut pas toutes les citer, mais dans cette émission, on va vous aider à améliorer votre qualité de vie avec des conseils contre la fatigue, les douleurs ou même des astuces alimentaires. Et pour en parler de tout ça, notre invité, ce sera le docteur Laurent Chevalier. Il est médecin au CHU de Montpellier et l'auteur du livre « Je vis avec une maladie auto-immune » aux éditions Marabout. Ensuite, dans notre chronique « Les maux du quotidien », on va s'intéresser à une infection habituellement courante à cette saison, la bronchiolite. Alors, y en a-t-il moins cette année, justement, grâce aux gestes barrières peut-être? C'est quoi précisément une bronchiolite? Comment ça soigne? Jimmy fera le point. Et puis, vers 15h50, nous retrouvons Catherine Blanc et sa chronique Sexo. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme qui a quelques problèmes pratiques avec les préservatifs.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 et on va démarrer par la question d'Oscar. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai lu que la fièvre, c'est un signe que le corps combattait une infection ou une maladie. Et du coup, je me demandais pourquoi on cherchait à la faire baisser, si c'est supposé nous guérir. Voilà, merci à vous. Bonne journée.
Merci Oscar pour cette très bonne question. Hein, Jimmy, vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est
évidemment
important. Bien sûr, vous devez toujours être d'accord avec moi, c'est un principe de base. Hein. Alors Jimmy, la fièvre, c'est vrai que ça peut nous arriver à tous d'avoir de la température pour de multiples raisons. Mais pourquoi en fait, d'abord on va dire physiologiquement, pourquoi le corps réagit comme ça et se met parfois en surchauffe?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la température, c'est quelque chose qui est finement régulé dans l'organisme et ça met en jeu de nombreux systèmes très complexes
qu'on n'aura pas le temps de détailler.
Pour en permanence, justement avoir une température normale. En fait, dans le cerveau, vous avez une glande qu'on appelle l'hypothalamus qui sert de thermostat. Elle va dire au corps qu'il faut être à 37 degrés. Et bien, quand il y a une infection virale, bactérienne ou autre, et bien le thermostat est déréglé et il y a des messages chimiques liés aux bactéries qui vont dire non, il ne faut pas être à 37 degrés, il faut être à 38, 39, 40. Donc ce point va être décalé et le corps va se mettre à frissonner. Vous allez avoir les poils qui vont se dresser et vous allez faire de la température. C'est donc un déréglage du système avec le thermostat qui ne marche plus très bien.
D'ailleurs, Jimmy, on se demande souvent à partir de combien, finalement, on a la température. Bon, c'est quelque chose qui se joue à peu de choses près, mais je ne sais pas, 37,5, 38.
La définition de la température, elle est claire, unique et consensuelle. C'est 38 degrés de température en l'absence d'activité physique intense dans une pièce qui n'est pas surchauffée et chez un adulte ou un enfant qui n'est pas trop couvert. Donc, si vous êtes derrière quatre couches de couverture...
Donc, vous êtes un peu plus haut, c'est normal.
Dans une pièce à 28 degrés, c'est plutôt normal. Mais sinon, c'est 38 degrés et la température se prend dans les fesses, le thermomètre rectal. Hein, d'accord, faut pas avoir peur, notamment chez les enfants.
C'est pas qu'ils marchent pas complètement les autres, mais vous préférez vous.
Hein, faut rajouter sous le bras, c'est pas très précis.
Un demi-degré, un degré,
exactement. Donc,
ça
si jamais vous avez un doute, vous mettez le thermomètre dans les fesses, notamment pour les enfants. C'est pas invasif et on a une vraie température.
Très bien. Ça peut monter jusqu'à combien d'ailleurs? C'est peut-être une question bête. Hein,
ça dépasse rarement.
Moi, je sais que je suis monté à 40,5 une fois lors d'une grippe, mais ça peut monter
rarement les 40,5, exceptionnellement 40,9, mais au-delà, ça peut être vraiment toxique pour le cerveau, ça devient dangereux. On appelle ça de l'hyperthermie qui va être maligne. Et donc, au-delà de 40,5, ça reste rare, encore heureux.
Bon, alors on va répondre quand même précisément à Oscar. Il demande si effectivement on doit toujours la traiter, donc prendre, je ne sais pas, du paracétamol pour la faire baisser. Si après tout, on la supporte bien, on est obligé de traiter.
Alors, c'est pour le confort essentiellement qu'on a la température. Même chose chez les enfants, ne cherche pas à combattre le chiffre, mais plus le confort, les maux de tête, les courbatures. Et dans certaines infections, certaines bactéries sévères, dans des méningites, la température peut être bénéfique. Et dans d'autres études, on montre que la température peut diminuer la réplication virale, c'est-à-dire qu'on lutterait mieux contre certaines infections. Donc prenez du paracétamol si jamais vous avez plutôt de l'inconfort plutôt que de vous battre contre ce chiffre.
Merci Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est une question qui nous a été posée sur Twitter, une question de Christelle. Elle nous demande notre avis sur cette enquête donc de l'UFC Que Choisir qui montre que l'on peut donc laver les masques chirurgicaux qui étaient donc a priori plutôt jetables au départ, mais qu'on pourrait les laver 10 fois. Elle dit, on ne comprend plus rien Jimmy, aidez-nous. Comment
trouve-t-on cette étude? C'est une étude passionnante de l'UFC Que Choisir. Je vous invite à la lire, elle est très simple, elle est accessible à tous. Ils ont pris 3 types de masques, 2 masques chirurgicaux
comme
achetés
ceux
en
que l'on porte tous les deux là aujourd'hui.
Voilà.
Hein,
et un troisième qui ressemble à un masque chirurgical mais qui n'est pas certifié et que c'est un masque qu'on appelle de confort. à l'œil nu, ils ont l'air strictement identiques. Et de base, ils marchent très bien, ils filtrent 98% des particules de plus de 3 micromètres, c'est-à-dire des toutes petites particules, dont celles du coronavirus. Donc à l'état normal, ils marchent très bien. Ils les ont mis à laver 10 fois à 60 degrés, puis ils ont séché au sèche-linge, puis ils les ont repassés et ils ont regardé de nouveau leur performance. Est-ce que ces masques filtraient bien ?
Aussi bien, ouais.
Eh bien, ils filtrent toujours aussi bien, un tout petit peu mieux qu'à l'origine pour un masque
mieux,
chirurgical.
Mieux alors, c'est
exactement.
Incroyable.
Et surtout, ils sont déjà beaucoup plus performants que tous les masques en tissu qui sont certifiés AFNOR. Ça veut dire qu'au lieu de garder ce masque, puisqu'il faut dire ce qui est, ça coûte de l'argent, notamment pour les enfants. Désormais, c'est obligatoire à partir de 6 ans.
Oui, puis ça va finir par être un sacré problème pour la planète aussi.
C'est un problème écologique. Donc, concrètement, les gens gardaient le même masque souvent toute la semaine. Désormais, ne faites pas ça. On peut éventuellement faire ça. Ce n'est pas encore validé par les autorités sanitaires. Ce n'est pas réservé aux personnes malades ni au système hospitalier. Mais c'est une alternative qui, je pense, pour l'instant, est acceptable.
Donc, finalement, on les traite un peu comme les masques en tissu. On peut les laver à 60, vous avez dit, un petit sèche-linge. Et un petit coup de repassage.
Exactement. Ils ont montré aussi que les élastiques arrivaient à tenir et ne lâchaient pas. Donc, mais évidemment, si au bout de 5 lavages, votre masque part en lambeaux, voilà, n'allez pas jusqu'à 10. Hein,
ça on jette, ça ira. Merci beaucoup, Jimmy. C'est un peu comme les chaussettes, hein, une fois qu'elles sont trouées.
Oh, ça dépend. Non, ça, quand ça ne se voit pas, moi, je peux les garder encore un petit peu.
Allez, très bien. Merci, Jimmy. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Laurent Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au CHU de Montpellier et l'auteur du livre dont on va parler aujourd'hui. Son titre, c'est « Je vis avec une maladie auto-immune sans réponse pour mieux vivre sa maladie et se soigner au quotidien chez Marabout ». Alors, docteur Chevalier, on est d'accord, ce bouquin, il n'a pas pour but de remplacer une consultation chez les spécialistes qui suivent les patients concernés par ces maladies, hein ?
On est tout à fait d'accord. En fait, un des objectifs de ce livre, c'est au contraire d'aider le patient à préparer comme il faut sa consultation. Souvent, les médecins n'ont pas beaucoup de temps. Et là, finalement, on donne déjà une grande base d'explications sur ce que c'est la maladie auto-immune, ce qu'on doit faire, sur à peu près 200 pages. Et donc, quand on va arriver devant le médecin, eh bien, on posera juste les bonnes questions et ça se passera très bien.
Alors justement, docteur Chevalier, quand on parle de maladie auto-immune, ça regroupe tout un tas de pathologies diverses et variées. Mais au total, combien de Français sont atteints par une maladie auto-immune ?
Alors, on considère aujourd'hui qu'il y en a à peu près, enfin au minimum 6 millions, ce qui est quand même énorme. Ouais. Donc, c'est même énorme. C'est la troisième cause de grandes maladies après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, c'est quelque chose qui est très, très significatif. Et intuitivement, on voit que ça se développe.
Et en plus, ça serait largement sous-estimé, je crois que vous dites, hein ?
Absolument. Donc, on pense que c'est sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que certaines maladies, par exemple le diabète de type 2, pourraient dans certaines circonstances être en fait un diabète de type 1 à expression tardive. Donc ça, c'est une piste de travail en ce moment. D'autre part, pour certaines pathologies comme l'obésité, les anticorps, on fabrique des anticorps qui peuvent bloquer certains récepteurs. Et là, en l'occurrence, pour l'obésité, on se demande s'il n'y a pas des anticorps qui bloqueraient les récepteurs de la satiété, ce qui expliquerait pourquoi des gens ont tout le temps faim et prennent beaucoup de poids. On a des études scientifiques aussi concernant la dépression. Certaines formes de dépression pourraient être tout simplement des maladies auto-immunes. Et tout ça, ça amène bien entendu à avoir une réflexion sur les traitements qu'on va être amené à proposer.
Docteur Chevalier, je reviens un tout petit peu en arrière, mais en fait, c'est quoi une maladie auto-immune, quelle qu'elle soit ? C'est toujours un dérèglement du système immunitaire, c'est ça ?
Exactement. Alors, en fait, le terme, je dirais, technique, c'est on a une rupture de la tolérance au soi, c'est-à-dire à son propre soi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fabrique des anticorps, qu'on va appeler des auto-anticorps, contre ses propres organes. Tout à l'heure, vous l'avez un peu cité, on peut faire ça contre la thyroïde, avec les thyroïdies d'Hashimoto, le pancréas avec certains types de diabète, l'estomac, les intestins avec la maladie cœliaque, la maladie de Crohn. La peau aussi, avec le psoriasis vitiligo. Donc, on a quand même comme ça de très nombreuses maladies qui ont une origine de type auto-immune.
Et justement, docteur, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on développe une maladie auto-immune ? Vous en avez cité quelques-unes, mais si on pense à la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, est-ce que l'explication est peut-être multifactorielle, mais est-ce qu'on a une idée de pourquoi tout d'un coup, ça va se déclencher ?
Alors, c'est une maladie, ce sont des maladies malgré tout de civilisation parce que elles se développent pas mal. Un certain nombre de facteurs vont intervenir, l'alimentation, l'exposition à un certain nombre de substances toxiques, et puis il peut y avoir aussi des typages génétiques. Alors, c'est différent d'une prédisposition. En prédisposition génétique, ça veut dire qu'on va avoir un profil. Et là, on a étudié chez les jumeaux et on s'est aperçu que quand il y en avait un jumeau dit homozygote qui développait une maladie auto-immune, eh bien son frère ne développait, ou sa sœur, enfin ça dépend, donc ne développait pas nécessairement de maladie auto-immune. Mais par contre, il y a un typage, c'est-à-dire que dans certaines maladies, comme par exemple la spondylarthrite ankylosante, on s'aperçoit que 90% des gens ont un typage de type HLA-B27. Alors c'est un petit peu technique, mais ça veut dire que on a quand même quelque chose de génétique qui va pouvoir favoriser, qui semblerait pouvoir favoriser certains types de maladies. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que finalement, on va avoir des gènes qui vont lutter contre des maladies infectieuses, mais ces mêmes gènes, finalement, vont pouvoir aussi favoriser dans certaines circonstances une maladie auto-immune. C'est pour juste démontrer la complexité un petit peu de la situation. Oui,
et apparemment, docteur Chevalier, ces maladies auto-immunes, elles seraient en augmentation, en tout cas pour certaines, et surtout dans les pays développés. Comment on sait ça?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que intuitivement, on voit qu'il y en a de plus en plus. Le problème qui se pose, c'est que les examens qu'on fait aujourd'hui, les auto-anticorps qu'on va être amené à doser maintenant, on ne les dosait pas il y a 15 ans. Donc, si vous voulez, on a scientifiquement des difficultés pour montrer l'évolution importante. Néanmoins, sur certaines pathologies, on peut le faire, et notamment sur le diabète de type 1. Et on s'aperçoit que dans le diabète de type 1, c'est-à-dire du diabète qui nécessite de l'insuline, eh bien, on a un risque qui est multiplié par 5, par rapport, notamment chez les enfants, par rapport à ce qui existait dans les années 50. Donc on voit bien qu'il y a un développement, et ce développement, on s'aperçoit qu'il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que dans des pays qui ont un niveau de vie élevé, on a plus de maladies auto-immunes, en tout cas plus de diabète, que dans des pays du sud avec un niveau de vie moins élevé. Donc ça, ce sont des données que l'on a, et on estime aujourd'hui qu'on a une augmentation de 30 à 40% des développements des maladies auto-immunes tous les 10 ans, ce qui est tout à fait considérable.
Et dans nos pays du Nord, là, ça serait donc du pays du Nord versus pays du Sud, vous dites qu'il y a un gradient Nord-Sud, ça serait quoi aussi notre excès d'hygiène, notre propreté qui nous rend malade, malade?
Alors, une des interprétations, il y a plusieurs causes, hein, mais une des interprétations, et l'une n'exclut pas l'autre hein, dans les causes, une des interprétations, si vous voulez, c'est qu'on a un système très performant pour lutter contre les micro-organismes, que ce soit les bactéries, les virus, certains parasites, etc. Et que tout d'un coup, quand il y a des conditions d'hygiène qui sont trop développées, eh bien, on a ce système immunitaire très schématiquement qui va se fonctionner à vide et qui va se retourner contre ses propres organes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, avec d'autres causes, bien entendu, qui interviennent. Mais ça, c'est très intéressant. C'est franchement très, très intéressant.
Et à l'inverse, est-ce que la pollution ne pourrait pas favoriser ces maladies ou pas du tout?
Si. La pollution peut malheureusement favoriser aussi ces maladies parce que la pollution peut atteindre, si vous voulez, les muqueuses de l'intestin, peut atteindre les parois de l'intestin et tout d'un coup, on a des altérations qui peuvent favoriser aussi le développement de maladies auto-immunes.
Ce qui nous rend aussi différents par rapport aux pays du Sud, c'est qu'on consomme plus de médicaments. Alors même s'ils nous sont indispensables dans de nombreuses situations, on sait aussi que nous, on en prend plus que nos arrière-grands-parents, par exemple. Est-ce que certains médicaments qu'on a pris, qu'on prend trop, pourraient nous rendre malades et fragiliser finalement notre système immunitaire?
Ah oui, alors ça certainement. Alors d'abord, pour bien mettre les choses au point, on n'est pas contre les médicaments, bien entendu,
qui
peuvent rendre des services énormes. Ce n'est pas la question. La question, c'est que on peut avoir des causes directes et indirectes. Et dans les causes indirectes, on a par exemple l'excès d'utilisation des antibiotiques qui ont déréglé pas mal de bactéries, enfin qui peuvent dérégler l'équilibre bactérien au niveau des intestins et qui peuvent favoriser effectivement certains types de maladies. C'est pour ça que l'assurance maladie, depuis longtemps, lutte contre l'excès ou donne des conseils contre l'excès d'antibiotiques. Il faut les utiliser que si on en a vraiment besoin, bien entendu. Après, on peut avoir des causes assez directes avec l'usage, par exemple, de certains anti-inflammatoires de façon trop fréquente, qui vont altérer les parois de l'intestin.
Et dans ce contexte actuel de coronavirus, est-ce qu'on peut parler de dysfonction du système immunitaire chez les personnes qui font des formes graves de coronavirus?
Alors, il y a plusieurs aspects. En tout cas, il y a un aspect qu'on a pu mettre en évidence récemment, d'ailleurs c'est des équipes françaises, qui ont montré que dans les formes graves du coronavirus, eh bien, on avait un processus auto-immun. Autrement dit, on faisait des auto-anticorps contre une substance qu'on appelle l'interféron 1. Alors, c'est un petit peu technique, mais cet interféron 1 est un messager et il participe à limiter la réplication des virus, le développement des virus. Donc, quand vous avez moins de cet interféron 1, bien entendu, eh bien, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Autrement dit, c'est un processus auto-immun d'auto-anticorps contre son propre interféron 1 qui est en cause, en l'occurrence, bon, c'est pas l'unique cause, bien entendu, mais c'est une des causes qui a été identifiée dans les formes graves des Covid-19.
Docteur Chevalier, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Laurent Chevalier. Vous êtes médecin au CHU de Montpellier et l'auteur du livre « Je vis avec une maladie auto-immune sans réponse pour mieux vivre et se soigner au quotidien » aux éditions Marabout. Alors justement, on va passer au quotidien, aux conseils pratiques pour nos auditeurs qui sont peut-être concernés par l'une de ces maladies auto-immunes. D'abord, docteur, s'il y a un symptôme qui est rapporté quasi, je crois, dans toutes ces maladie qui touche, je ne sais pas, la thyroïde, un lupus, une spondylarthrite, c'est la fatigue. La fatigue, pourquoi elle est toujours présente?
Alors, elle est présente malheureusement, effectivement, c'est une des caractéristiques des maladies auto-immunes. Alors pourquoi, effectivement, vous créez des anticorps, qu'on appelle auto-anticorps, contre vos propres organes. Mais parallèlement, l'organisme va chercher à les neutraliser. Donc finalement, vous êtes dans un conflit interne permanent, qui explique en grande partie toutes ces fatigues. Mais la fatigue, eh bien, vous savez, c'est quelque chose de complexe, c'est ressenti de façon différente d'une personne à l'autre, et puis en fonction aussi de son psychisme. C'est-à-dire que si vous avez bon moral, eh bien, la fatigue, vous la ressentirez moins. Par contre, si vous avez un mauvais moral, vous rentrez dans une spirale qui n'est pas forcément très très bonne. Donc, si vous voulez, on a des explications tout à fait objectives à cette fatigue, et il faut arriver à la combattre, bien entendu, et c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel pour que justement ce ressenti soit le moins fort possible.
Et justement, docteur, vous dites que dans votre livre que pour la combattre, le meilleur remède, ce serait l'activité physique, mais c'est difficile à entendre pour un patient de savoir que bah, comme on est fatigué, mais il faut faire du sport pour lutter contre cette fatigue. Ça paraît un peu ambivalent.
Jimmy, écoutez, l'activité physique, c'est un gain d'énergie. Le pire des choses qui puissent arriver, et pas que pour les maladies auto-immunes, c'est ce qu'on appelle la désadaptation biologique. C'est-à-dire que vous rentrez dans une espèce de spirale où vous vous enfermez.
Ça, il connaît Jimmy, il est déjà enfermé dans la désadaptation.
C'est gratuit, ça.
Je le connais depuis un an et demi maintenant, je vois qu'il est complètement désadapté, là. Physiquement.
Et donc, finalement, le meilleur moyen, eh bien, c'est de voir une petite une activité physique correcte, douce, tous les jours. Il faut sortir parce qu'aussi la luminothérapie est tout à fait essentielle pour lutter contre la fatigue, c'est-à-dire la lumière qui est un facteur de bien-être aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et on a la possibilité toujours d'aller se promener à 1 km autour de chez soi. On peut tourner, on peut faire un peu de footing, on peut faire différentes choses.
Docteur Chevalier, on le dit de plus en plus souvent de toute façon dans cette émission, hein, le meilleur des traitements contre beaucoup de choses, c'est le mouvement. Mais quand on est atteint par une maladie auto-immune, est-ce qu'il y a des activités physiques, je ne sais pas, qui seraient peut-être plus recommandées que d'autres, je ne sais pas?
Alors, la marche, c'est quelque chose qui est très bien. Après ça, il faut faire une activité physique que vous aimez. Ça, c'est l'essentiel. On fait attention à avoir des activités physiques qui soient pas, qui n'entraînent pas de traumatisme. Donc, on va éviter, par exemple, le ski, le cheval, des choses comme ça pour éviter de tomber. Et puis, il y a une activité que malheureusement, on ne peut pas faire mais en ce moment, mais qu'on va pouvoir refaire très bientôt, c'est la natation. Natation, puisqu'on se retrouve en apesanteur, et quand vous avez une polyarthrite rhumatoïde, quand vous avez une spondylarthrite ankylosante, que vous avez des douleurs
articulaires,
vous êtes en apesanteur et vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez faire une rééducation dans la piscine. Ça se fait de plus en plus et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant.
Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il y aurait un lien entre l'alimentation et les maladies auto-immunes au travers du microbiote, la flore intestinale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rapport entre les deux?
Alors, vous savez qu'il y a 70% de l'aspect immunitaire qui se trouve autour des intestins. Pourquoi? quand vous ingérez les aliments, vous ingérez aussi un certain nombre de bactéries, vous ingérez des virus, vous ingérez entre guillemets des souillures. Et puis aujourd'hui, vous ingérez en plus des produits chimiques, des plastiques, etc. Et l'intestin, il doit, dans cette alimentation, faire le tri entre ce qui est bon, les vitamines que vous avez absorbées, les nutriments, les protéines, les acides aminés, etc., et ce qui n'est pas bon. Et donc, l'alimentation, effectivement, peut entraîner, si elle est mal choisie, de nombreux troubles, puisque, on peut avoir des dérèglements, et notamment des dérèglements de son microbiote.
C'est ce qu'on appelle...
C'est-à-dire des bactéries intestinales.
C'est ça, et c'est la dysbiose, le problème, quand elles sont déséquilibrées, surtout ces bactéries intestinales. Est-ce que vraiment ces déséquilibres, ces dysbioses, elles pourraient expliquer en partie l'augmentation dont on a parlé tout à l'heure, des maladies auto-immunes dans ces pays du Nord ?
Absolument. Et alors, comment ça se passe ? Eh bien, il y a d'une part cette dysbiose, c'est-à-dire cette déséquilibre, parce que par exemple, quand vous mangez trop sucré, vous déséquilibrez votre ration alimentaire avec une alimentation trop transformée, mais aussi cette soupe chimique, c'est-à-dire des résidus de pesticides que vous pouvez absorber, mais aussi des contaminants involontaires comme les additifs, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'intestin, vous avez des cellules, il y a une jonction entre les cellules. Quand vous avez une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre des bactéries, mais aussi toutes ces substances chimiques, vous avez une altération de ces jonctions entre les cellules. Et du coup, il y a beaucoup plus d'éléments qui vont passer. Et c'est ce qui explique notamment l'explosion des allergies, et également l'augmentation des maladies auto-immunes. Autrement dit, il y a une hyperperméabilité intestinale, et cette hyperperméabilité intestinale laisse passer des éléments indésirables qui provoquent allergies et maladies auto-immunes.
Alors du coup, docteur Chevalier, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients justement pour prendre soin de leur microbiote et peut-être éviter, ou en tout cas limiter certaines maladies auto-immunes ?
Alors déjà, quand on consomme bio, on limite l'exposition à un grand nombre de substances chimiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis après ça, on a des astuces, je dirais, pour avoir des bonnes bactéries. Et les astuces pour avoir des bonnes bactéries, c'est par exemple le fromage avec sa croûte.
Moi, je mange que la croûte, aussi... donc c'est parfait. C'est ce que je préfère.
Ça, c'est très bien.
Je dois avoir un bon microbiote. Donc,
voilà, on peut prendre des yaourts, si on prend du pain, on prend du pain au vrai levain, donc on va pas prendre du pain au levain si on a une maladie cœliaque, mais dans d'autres circonstances, on peut tout à fait prendre du pain et on va le prendre au vrai levain, et donc là aussi, ça va équilibrer sa flore digestive. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, entre guillemets, qu'on trouve beaucoup plus facilement maintenant qu'il y a 10 ans, c'est le kéfir, et le kéfir de fruits. Donc, ce sont des fruits, c'est une boisson, à base de fruits qui ont été fermentés. On les trouve maintenant un peu partout, et donc on va le prendre, ou on peut les fabriquer soi-même avec des petits sachets déshydratés qui en contiennent, ou même le fabriquer avec une figue, etc. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. On en trouve, on va le diluer dans un peu d'eau et on va le boire de façon régulière. Donc le kéfir de fruits fait partie de ces 10 probiotiques naturels qui vont vous amener les bonnes bactéries au niveau intestinal et bien équilibrer votre flore digestive.
Eh ben, je suis ravi parce que même moi, j'apprends des trucs avec vous, c'est génial. Et je crois qu'aussi, il faut faire attention au sel, maladie auto-immune et sel, ça fait pas bon ménage ?
Exactement. On s'est aperçu que, en fait, certaines maladies auto-immunes évoluent par poussée. Et le sel pourrait favoriser les poussées. Ça a été bien documenté dans les scléroses en plaques. Ça l'est aussi un petit peu dans le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde. Donc on se dit que, finalement, si c'est vrai pour ces maladies auto-immunes où on a une documentation scientifique, c'est probablement vrai aussi pour d'autres maladies auto-immunes. Parallèlement, il faut faire attention à une chose, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut manger sans sel strict.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus perdre l'appétit, il ne faut pas se dénutrir non plus. Par contre, on fait attention à ne pas manger trop salé.
Et petite astuce pour terminer, consommer régulièrement du vinaigre, pourquoi ?
Alors, on s'est aperçu que le vinaigre, l'acétate, avait une influence sur l'immunité et notamment sur les lymphocytes B régulateurs, et que ça, c'est tout à fait bénéfique dans les maladies auto-immunes.
Donc, dans la salade, on ne peut pas mettre du vinaigre, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très simple, très facile à faire et que tout le monde peut facilement pratiquer.
Docteur Chevalier, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en ligne avec nous aujourd'hui, c'est le docteur Laurent Chevalier. Je rappelle que vous êtes médecin au CHU de Montpellier, que vous êtes également l'auteur du livre « Vivre avec une maladie auto-immune » aux éditions Marabout. Alors docteur Chevalier, à présent, dans ce souci là du mieux vivre avec une maladie auto-immune, il y a un chapitre dans votre bouquin qui s'intitule « Les attaques des toxiques » et vous démarrez par les perturbateurs endocriniens, ces substances dont on a déjà parlé dans cette émission, hein, qu'on trouve dans les pesticides, dans certains emballages, dans les vernis aussi par exemple, ils ont un rôle eux aussi sur notre système immunitaire ?
Alors en fait, ils ont un rôle indirect puisqu'ils vont altérer les parois de l'intestin. Et donc c'est comme ça qu'ils vont agir, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, cette espèce d'hyperperméabilité intestinale pourrait en grande partie être due justement à ces toxiques qu'on absorbe. Et puis, il y a aussi des dizaines de milliers de microparticules de plastique qu'on absorbe tous les ans. Il y avait une étude qui était sortie là-dessus aux États-Unis pour les Américains, mais pour les Européens, c'est à peu près la même chose, en 2019, et qui est tout à fait inquiétante. Donc, vous avez une altération des parois intestinales qui peut favoriser, dans un deuxième temps, justement, ces maladies auto-immunes.
Vous parlez justement des emballages plastiques qui peuvent nous contaminer lorsqu'on mange, et vous avez fait partie de ceux qui se sont mobilisés il y a 10 ans pour faire interdire le bisphénol A. Néanmoins, on a malheureusement d'autres molécules qui peuvent nous empoisonner. Comment est-ce qu'on limite ce risque pour notre santé ?
Alors, je dirais trois choses et puis une petite remarque. La première, c'est que plus on consomme bio, moins on absorbe de résidus, de pesticides. On limite aussi l'absorption des additifs. Et puis, c'est bien entendu très intéressant et indispensable pour la planète. Ensuite, plus on a une alimentation brute, la moins transformée possible, moins on a de risque de trouver différentes substances. Enfin, on va bien choisir ses ustensiles de cuisine. On va les choisir plutôt en verre, plutôt en inox, pour la poêle, pour les casseroles, etc. Mmh. Mais je voudrais souligner un point, c'est que, je veux dire, il y a une prise de conscience un petit peu généralisée par rapport à tout ça. Et les industriels aujourd'hui font des gros efforts pour nous proposer du bio de qualité, pour mettre moins d'additifs, pour avoir une réflexion sur les emballages. Et moi, j'ai été souvent très frappé par des industriels qui me disaient « Écoutez, on cherche à bien faire, comment ça se fait qu'on n'a pas toutes ces informations que vous développez ?» Là, je pourrais leur dire « Écoutez, Europe 1 ».
Écoutez sans rendez-vous tous les jours à 15h.
Écoutez sans rendez-vous, bien entendu, tous les jours à 15h, absolument. Donc, si vous voulez, ils ont un défaut d'information, parce qu'il faut bien voir qu'il y a un nombre incalculable d'industriels qui cherchent à bien faire, oui, bien entendu. Mais ils se sont retrouvés dans une espèce de nas où on leur dit « il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Bon. » Donc il n'y a pas que l'histoire de la rentabilité. Et je crois que cette prise de conscience, elle est très forte de nouveau, enfin elle est très forte aujourd'hui de la part d'un grand nombre, pas de tous évidemment, mais d'un grand nombre d'industriels.
Docteur Chevalier, puisqu'on parle des toxiques, le tabac en est un pour tout le monde, alors ça on le sait, mais est-ce que fumer peut jouer un rôle dans l'apparition d'une maladie auto-immune ?
Alors, on a des arguments scientifiques très forts sur la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire que les femmes qui fument ont plus de risques d'avoir une polyarthrite rhumatoïde que les femmes qui fument pas. Là, on a des données scientifiques, statistiques. Donc pareil, on se dit que pour d'autres maladies auto-immunes, ça doit être à peu près la même chose. Et finalement, on s'est aperçu, enfin une des interprétations, est que ça pouvait activer ce système d'auto-immunité par, en fait, des antigènes un petit peu qui sont, qui vont se retrouver auto-antigènes et qui vont déclencher une maladie auto-immune. Donc, le tabac serait un activateur, effectivement, du déclenchement de certaines maladies auto-immunes.
Et justement, toujours dans ce déclenchement de ces maladies auto-immunes et d'éventuellement leur lien avec une exposition à un toxique, est-ce que certains médicaments pris pour d'autres pathologies pourraient participer, justement, à ce déclenchement et au développement de certaines d'entre elles ?
Oui, alors on l'a évoqué tout à l'heure. On l'a évoqué tout à l'heure avec les anti-inflammatoires, le déséquilibre de la flore digestive. On a quelques inquiétudes aussi concernant les immunothérapies et puis les traitements par anticorps monoclonaux que l'on voit se développer, qui vont se développer de plus en plus probablement contre le cholestérol, contre les migraines, etc. Donc on a quand même des interrogations par rapport aux conséquences que ça peut avoir à moyen et long terme. Parallèlement, je voudrais quand même bien souligner que les médicaments qu'aujourd'hui on utilise dans les maladies auto-immunes participent aussi à la qualité de vie.
Ouais.
Donc ça, c'est important. Ce qu'on veut faire, c'est de la prévention, bien entendu.
Bien sûr. Et heureusement pour nous, les médecins sont de plus en plus informés. Vous parliez des industriels tout à l'heure, mais les médecins aussi. Vous parlez des immunothérapies qui sont indispensables hein, pour traiter, pour révolutionner la prise en charge de certains cancers notamment. Mais les médecins connaissent aujourd'hui les balances bénéfices-risques, sont au courant et sont plus précautionneux peut-être dans leurs prescriptions aussi.
Oui, de plus en plus, ça c'est certain. Donc ils sont axés à quand même certaines informations par rapport à ça. Et effectivement, comme vous venez juste de le dire, exactement, c'est toujours cet équilibre, le bénéfice par rapport au risque. Et parfois, eh bien, on peut s'abstenir de traiter, bien entendu. Et puis, c'est aussi un des aspects de ce livre sur les traitements, de bien expliquer un petit peu les choses, de pourquoi on a des immunosuppresseurs, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est un des objectifs aussi de cet ouvrage.
Alors en ce moment, le temps est un peu morose, mais le soleil, ou en tout cas l'excès de soleil, on sait que ça peut entraîner des cancers cutanés, mais là aussi, ça pourrait avoir un rôle dans les maladies auto-immunes.
Alors là, c'est assez intéressant parce que si vous voulez, la vitamine D est protectrice. Mais si vous exposez trop, c'est très mauvais. Et là, par exemple, par rapport au lupus, on a des données très fiables là-dessus. Donc, quelqu'un qui a une maladie lupique, on dit surtout, vous n'allez pas vous exposer au soleil.
Il y a des gens qui déclenchent des lupus parce qu'ils ont trop pris le soleil, ça arrive ça, oui ?
Non,
c'est pas ça.
Mais on a peur qu'ils aient des poussées. Ensuite, si vous voulez que ça s'aggrave. J'en profite, si vous me permettez.
Bien sûr.
Pour cette vitamine D, elle est très importante, indispensable. Et un des moyens de se protéger du Covid-19, c'est d'avoir un bon statut en vitamine D et de prendre une ampoule de vitamine D. Actuellement, déjà, c'est bénéfique d'une manière générale, Jimmy vient de le dire, avec le manque de soleil, etc. Mais ne pas oublier que la prévention du Covid-19, enfin du moins limiter l'aggravation, etc., ça passe aussi par un bon statut en vitamine D.
Donc la vitamine D, ce n'est pas que pour les os, c'est aussi pour le système immunitaire, hein, c'est ça ?
Absolument. Et donc les médecins le prescrivent énormément en ce moment et je crois que c'est une très bonne chose.
Autre toxique, alors c'est celui que nous allons créer, le stress. Est-ce qu'il pourrait avoir un rôle, surtout quand il devient chronique, sur l'apparition de ces maladies ou en tout cas même parfois sur l'aggravation de ces pathologies ?
Voilà, c'est surtout le stress chronique, c'est-à-dire le stress aigu.
Bon là, en ce moment, ça fait 7 mois qu'on est stressé, c'est pas bon, hein.
C'est pas forcément très bon. Non, mais c'est-à-dire que ça dépend du ressenti. Je crois qu'il y a cette période, il faut l'accepter comme elle est, etc. Mais il faut pas stresser plus que de raisonnable, si vous voulez.
Mais il agit comment sur notre système immunitaire, ce stress chronique ?
En fait, il désadapte. On a une désadaptation biologique, un petit peu comme quand vous faites plus de sport ou plus d'activité physique. Donc vous rentrez dans des espèces de spirales où tout d'un coup, je veux dire, on va avoir une toxicité de ce stress chronique, toxicité au niveau du cerveau, troubles de l'immunité, troubles de l'humeur, dépression, etc. Mmh. Donc il faut arriver à raison garder, je dirais, par rapport à ça et faire attention à pas tout dramatiser.
Docteur Chevalier, pour terminer, un petit clin d'œil, est-ce qu'il y a un profil, c'est parce que j'ai lu ça dans votre livre, alors est-ce qu'il y a une personnalité qui ferait qu'on serait plus à risque d'avoir une maladie auto-immune ? J'ai lu dans votre livre, en tout cas, qu'il faudrait peut-être pas être trop gentil. Donc Jimmy est protégé, je crois.
Alors ça, c'était un petit clin d'œil parce qu'on cherche toujours un profil de vulnérabilité psychologique. Les études sont limitées là-dessus, mais certaines personnes qui apparaissent trop conciliantes seraient peut-être un peu plus aptes à déclencher des maladies auto-immunes, mais ça reste quelque chose de tout à fait hypothétique. C'est pas la cause, bien entendu, des maladies auto-immunes, mais c'est une réflexion qu'il y a eu là-dessus et quelques études qui étaient intéressantes, comme vous venez de le dire, exactement sous forme de clin d'œil.
Voilà, si c'est pour ça que je le soulignais. Il y a beaucoup de choses d'autres très intéressantes dans votre livre aussi. Merci beaucoup, docteur Chevalier, d'avoir été en ligne avec nous. Et donc, je rappelle, pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a même 16 focus sur des maladies très précises. C'est très intéressant. Le titre du livre, c'est « Je vis avec une maladie auto-immune » aux éditions Marabout. Merci encore.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors, on va passer à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, une question sur une infection, mais qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Et oui, il faut bien que la vie continue aussi. Et vos préoccupations ne concernent pas que le Covid. On écoute donc la question de Charles.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je sais que vous parlez des petits bobos de tous les jours et je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'était une bronchiolite. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors, une question claire et simple pour vous, Jimmy, qui pratiquez la médecine générale. J'imagine que c'est une maladie, la bronchiolite, que vous voyez souvent en consultation. Mais d'ailleurs, en ce moment, peut-être qu'il y en a un petit peu moins, non, j'imagine, puisque avec tous ces gestes barrières, finalement,
exactement, avec
où sont passés les virus, les autres.
Exactement, on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, sur le terrain, j'ai l'impression que l'épidémie de Covid en ville est en train de s'améliorer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, la bronchiolite, il y en a, mais très peu. Je vois quelques enfants par-ci, par-là. Alors qu'habituellement, on a une épidémie qui
en novembre,
peut durer,
là, y en a,
en octobre,
ouais.
Novembre. C'est 500 000 enfants qui sont touchés par la bronchiolite chaque année avec une épidémie qui, pour l'instant, n'arrive pas. Alors peut-être qu'elle arrivera au mois de décembre ou janvier. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose.
D'accord. On va répondre à Charles précisément. C'est quoi la bronchiolite alors ?
Alors la bronchiolite, si vous voulez une définition très simple, c'est la bronchite des bébés.
J'allais dire la petite bronchite.
Exactement. Parce que bronchiolite, effectivement, c'est les petites bronches, les bronchioles, celles qui sont tout au bout de l'arbre respiratoire, qui vont être attaquées par un virus. Le plus souvent, c'est le VRS, le virus respiratoire syncytial, dans 60% des cas. Mais d'autres virus peuvent donner des bronchiolites et elles vont donner un enfant qui va avoir une espèce de rhinopharyngite et seulement dans 20% des cas, ça va évoluer vers une gêne respiratoire, un bébé qui va respirer beaucoup puisqu'il va avoir une hypersécrétion des bronches qui vont produire
c'est
beaucoup
des enfants
de
qui ont
mucus.
La poitrine se ressoulève voilà. Beaucoup, hein, et respire
exactement.
Fortement.
Mais
hein,
ça, c'est simplement dans 20% des cas. D'accord. Dans l'immense majorité, ça donne qu'une petite rhino qui passe inaperçue. Mmh. La forme bruyante reste beaucoup plus rare.
Donc ça touche, vous le dites, les enfants, sur, bon, entre 0 et 2 ans, j'ai juste, si
exactement.
Je dis ça, les petits, donc, est-ce que moi, qui suis grande, enfin pas si grande que ça, je peux avoir une bronchiolite ? Non,
alors,
ça sera une bronchite chez moi.
Si jamais vous êtes exposé au virus respiratoire syncytial, vous aurez peut-être qu'une rhinopharyngite, le nez qui coule, un peu de température, ou peut-être une bronchite, mais vous ne ferez pas la forme sévère que certains enfants peuvent faire, qui souvent tétanisent un peu les parents.
Alors comment, juste une autre question avant, est-ce que ces enfants qui vont avoir ce problème respiratoire aigu, cette infection aiguë, c'est pas de l'asthme, c'est pas la même chose. Hein.
Non, ça ressemble à de l'asthme parce qu'on dit que c'est une bronchite qui siffle. On a l'impression que l'enfant fait de l'asthme. En revanche, après 3 bronchiolites, ça devient de l'asthme du nourrisson. Et à ce moment-là, on sait que c'est des enfants qui vont peut-être avoir besoin de ventoline ou de traitement de l'asthme lorsqu'ils vont faire des petites rhinopharyngites quelconques. Mais avant ces 3 épisodes, ce n'est qu'une infection virale.
Alors comment on la traite, cette bronchiolite ?
Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas de traitement pour la bronchiolite. On traite l'inconfort de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va vous donner exactement la même chose que pour une rhinopharyngite, du paracétamol.
Nettoyer le nez, ouais.
Exactement, quand il y a de la fièvre ou de l'inconfort. Et puis laver le nez, laver les sécrétions en privilégiant les moments avant le repas, puisque souvent il y a une difficulté à l'alimentation. Le bébé ne respire quasiment que par le nez, et donc il va concentrer toute son énergie pour respirer, et l'alimentation va passer au second plan. Ce qui veut donc dire que si jamais vous avez un bébé qui a une bronchiolite, qui prend moins de la moitié de ses biberons 3 fois de suite, sur 3 repas, c'est un signe de gravité. Les troubles de l'alimentation doivent vous faire consulter.
Voire même aller à l'hôpital parfois. Hein.
Si jamais il y a une détresse respiratoire.
D'accord. Et la kiné, on en pense quoi ? Parce que là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a des médecins, les pro-kinés, les anti, enfin pas anti-kinés du tout, mais qui ne sont pas convaincus en tout cas par l'efficacité de la kiné respiratoire.
Alors les dernières recommandations de l'Haute Autorité de Santé dit qu'il ne faudrait pas faire de kiné puisque ça n'apporterait pas de confort particulier. En revanche, en médecine de ville, on se rend compte malgré tout que même si c'est impressionnant, les bébés dorment mieux, ils mangent un peu mieux. Évidemment,
moi, j'en ai fait faire à mon fils quand il avait été malade, je l'ai senti beaucoup mieux après les séances. Même si les séances peuvent être un peu impressionnantes.
On craint l'hypothétique fracture de côte qui est exceptionnelle.
Les
kinésithérapeutes le font très très bien. Et je peux vous assurer, quand vous avez un enfant qui a une bronchiolite, qu'on lui fait de la kiné, eh bien, il se sent mieux. Donc c'est au cas par cas à discuter avec votre médecin traitant ou pédiatre qui sera le mieux pour vous conseiller.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui entre en scène tout de suite. Catherine Blanc est sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, on a une question de Nicolas que le docteur Jimmy Mohamed va se faire un plaisir de nous lire.
Avec grand plaisir. Chaque fois que j'enfile un préservatif, c'est la cata. Je perds mon érection. C'est vrai, c'est très embarrassant aussi bien pour moi que pour ma copine. Comment l'expliquer ? Bon, Catherine, je crois que c'est assez fréquent de justement perdre une érection lorsque dans un moment un peu de feu, on a du mal justement à mettre ce préservatif.
Ça oui, casse l'ambiance, quoi.
C'est extrêmement fréquent. Alors, où que ce soit, parce que justement, il est question de technique quand on était dans la liberté et la fluidité des rapprochements corporels et donc du désir. Donc ça peut être pour une question technique. Tout d'un coup, il faut avoir rebranché le cerveau qui s'était un petit peu mis en berne pour voir dans quel sens on le met, le glisser comment, etc. Parfois, les maladresses font que, pourquoi pas, se le claquer sur le pénis, ce qui n'a jamais amené à une érection, on peut l'imaginer très aisément. Mais au-delà de cela, il y a aussi l'idée que, d'abord, le préservatif qu'on le veuille ou non, même si on le met en automatisme dans la sexualité et c'est heureux, eh bien, oblige à penser à une protection. Donc c'est assez curieux parce que nous sommes dans un temps où on va s'unir et c'est un moment où on raconte un geste, on rencontre d'un geste qui est « je me protège de toi et je te protège de moi ». Donc c'est symbolique bien sûr, mais ça renvoie une sorte de suspicion l'un pour l'autre, ce qui peut amener certains hommes à perdre leur érection.
Ça c'est classique ce truc-là, non quand même, enfin, parce qu'on oui. on en a déjà entendu parler, des jeunes hommes surtout, non?
Oui, mais oui, bien sûr, parce que c'est toute l'ambivalence, c'est-à-dire que pour pouvoir faire l'amour, il faut dire « j'ai assez confiance en toi », or il faut introduire ce préservatif qui rend compte de « il y a un risque ». Donc on comprend bien que nos psychismes aient du mal et que parfois ça entraîne une symptomatologie qui est de perdre donc cette érection.
Mais du coup c'est psychologique parce que je comprends, si vous mettez 20 minutes à mettre un préservatif, au bout d'un moment l'érection...
Elle est partie. Non, je parlais même de la fille.
Mais les deux derrière, ensuite elle part et je peux la comprendre. Mais si ça dure 15, 20, 30 secondes, c'est normal de perdre une érection en... si peu de temps?
Alors, il y a certains qui, par exemple, parce que oui, comme vous le dites, c'est en effet psychologique, il y a une partie psychologique pour ce que je viens d'expliquer, mais aussi, par exemple, certains qui ont l'idée d'étouffer leur pénis dans du plastique. Alors qu'on est bien d'accord.
Il n'étouffera pas, il ira très bien.
Il n'a pas de poumon.
Le zizi n'a pas de poumon, donc il n'étouffera pas.
Il ne respire pas.
On est rassuré, Jimmy, merci.
Mais en réalité, ce que va raconter la difficulté du préservatif, c'est aussi ce que raconte potentiellement le fait de pénétrer un contenant. Donc ça se fait déjà avec le préservatif et la peur d'y rester coincé, d'être étouffé à l'intérieur. Donc c'est une angoisse de castration. Tout
rester coincé non plus, ça n'arrive pas souvent, Jimmy.
Non, c'est un nouveau concept, c'est la claustrophobe du préservatif. C'est marrant, hein, le zizi tout d'un coup a peur d'un espace confiné.
Non, le zizi, c'est la tête du propriétaire du zizi, je vous rappelle.
Vous dites souvent, Catherine, pour désamorcer une situation, il faut rire justement.
Oui, absolument.
C'est ce qu'on fait là d'ailleurs.
Mais est-ce que dans cette situation, il faut vraiment en rire? Imaginons, un homme a du mal à mettre le préservatif, il perd son érection. Si la femme se met, ou le conjoint ou l'homme se met à rigoler, je ne suis pas sûr que ça relance la machine.
Ouais, c'est vrai. Alors, ça ne relance pas la machine, mais pour vous raconter une anecdote d'un monsieur qui était justement de Kera, qui me faisait part d'une histoire comme ça, où ça a duré quelques secondes, puis quelques minutes, et puis ils ont ri, et puis c'est devenu une blague, et puis ils étaient morts de rire, jusque dans des fous rires incroyables. Ils ne sont jamais pénétrés de cette soirée-là.
À la fin, ils n'ont pas fait l'amour, je crois.
Ils n'ont absolument pas fait l'amour, mais ils en gardent tous les deux, puisqu'après, ils l'ont fait, et ils en gardent tous les deux le début de moult orgasmes, parce que le rire était déjà ce rendez-vous de complicité et de plaisir partagé. Ah oui. Donc le
vous
rire, c'est
vous,
déjà...
Ça,
et d'ailleurs, je ne sais pas, drôle de bruit là, mais...
Et vous savez, mes femmes qui rient. Déjà.
Ah non. Oui, on le dit, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien hein, de rire, effectivement, mais dans ce moment-là, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc
si,
je sais pas.
Encore si faut-il peut-être s'entraîner. Si on s'entraîne, peut-être que du coup, on est plus performant. On fait bien ce qu'on fait souvent. Donc,
C'est ça. De toute façon, je conseille toujours aux jeunes gens de s'entraîner, ne serait-ce que parce que quand nous faisons l'amour, à ce moment-là, comme je le disais, le cerveau, le côté raison du cerveau se met un peu en berne au bénéfice de quelque chose d'un peu plus primaire, primitif de nous-mêmes. Le fait de s'entraîner, d'avoir la mécanique gestuelle, permet de ne pas avoir à y penser. Donc, savoir le faire sans être obligé de dire « alors attends, c'est dans quel sens ?»
Et le
comme
mieux,
ça,
c'est de les avoir aussi à portée de main, non? Parce que si on doit aller chercher à l'autre bout de la maison,
ou planquer au fin fond de son portefeuille, donc, c'est assez logique et assez naturel et assez normal de perdre son érection dans ce cas-là. Et on peut se poser la question, pourquoi on est allé le planquer si loin en fait, hein? Et finalement, est-ce que c'était pas parce que le passage à l'acte reste quelque chose de difficile et du coup, ce n'est pas la faute du préservatif, mais bien le passage à l'acte qui lui-même pose problème.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, à demain, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane et Mathieu.
Bonjour Mélanie. Parlez-moi de votre mère. Non, en fait, c'est pas la vôtre qui nous intéresse.
Je peux vous en parler, hein, si vous voulez. Ma mère, elle est intéressante. C'est une femme intéressante qui mérite, je crois, peut-être qu'on prenne du temps.
Mathieu, c'est très gentil, mais Historiquement Vôtre est une émission d'histoire. Ah, oui. On s'intéresse à ces hommes célèbres qui ont eu des rapports contrariés avec leur mère. Louis IX dit Saint-Louis avec Blanche de Castille, sa maman. Mmh. Charles de Sévigné avec sa maman qui écrivait des lettres, Madame de Sévigné. Et vous avez choisi un acteur américain.
Oui,
c'est ça,
Chris, écoutez,
Sylvester Stallone.
Oui, de Sylvester Stallone, vous connaissez ses muscles, mais peut-être pas forcément sa mère, Jackie Stallone. Vous voyez Jackie Sardou, c'est la même chose en version américaine.
Très bien, un beau programme. Puisque vous parlez des mamans, j'en profite pour embrasser la mienne. Bonjour maman, bisous. Et puis on va vous écouter, bien sûr, avec Jimmy Mohamed et vous aussi. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.